Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On vit très bien sans savoir.
Alors là, n'importe quoi.
Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Léon.
C'est pas simple, mais j'ai compris. Bien. Je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Nous nous sommes émerveillés de notre magnificence dès la venue au monde de l'IA.
Je suis celui qui pénètre votre cerveau.
Tes pensées te trahissent. Tes sentiments pour eux sont forts.
Qu'est-ce que c'est que cette voix ? C'est rien.
Lire dans les pensées. Personnellement, j'ai toujours préféré le pouvoir de télékinésie ou téléportation. Mais qui n'a pas rêvé de savoir ce qui se tramait dans le cerveau des autres ? Jusqu'à preuve du contraire, aucun être humain n'en est capable. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, une IA vient d'en faire la démonstration. Connectée au cerveau de 4 patientes américaines, l'intelligence artificielle développée par une équipe de l'université de Californie, à San Francisco, a été capable de décoder en temps réel les phrases que les volontaires prononçaient. Petite image, alors qu'elle ne pouvait rien entendre, cette intelligence artificielle, elle savait ce qui était dit avec 97% d'exactitude. Pour nous qui parlons ou écrivons sans difficulté au quotidien, j'ai conscience d'avoir un peu survendu le sujet. Dans la liste des super-pouvoirs, taper ses textos sans bouger les doigts, c'est le premier choix de personne. Maintenant, imaginez que cette technologie vienne équiper des personnes paralysées ou enfermées dans leur corps sans possibilité de s'exprimer. L'IA décodeuse pourrait leur redonner accès au monde extérieur en convertissant leurs pensées en phrases compréhensibles de tous. Ils seraient reconnectés en quelque sorte à notre réalité. Mais il y a un mais, voire même plusieurs. Qui nous garantira que cette IA dira vraiment ce que le patient pense ? Et qu'est-ce qui l'empêchera d'accéder aux autres pensées des patients ? Je n'ai pas la réponse à ces questions, mais je n'ai pas besoin de lire dans l'esprit de mon invité du jour pour savoir quelles elle les a. Elena Sender est la spécialiste des neurosciences du magazine Science et Avenir. Bonjour Elena.
Bonjour Romain.
Bon, j'ai l'impression de commencer tous mes épisodes de la même façon, avec un instant, on va dire, didactique de définition des termes. Mais bon, puisque ça va être le terme qu'on va employer sans doute le plus aujourd'hui, autant le définir. Donc on parle beaucoup d'interface homme-machine. Est-ce que tu peux nous en donner une définition brève ?
Alors, je préfère le mot d'interface cerveau-machine, puisque c'est de cela qu'on parle aujourd'hui. Comme son nom l'indique, c'est un système qui relie le cerveau et un ordinateur. Pourquoi faire ? Pour aider le cerveau à faire ce que la personne handicapée ne peut plus faire, c'est-à-dire agir sur ses nerfs et sur ses muscles. Ce sont des systèmes qui ont été conçus à partir des années 70. Les premiers ont été testés à partir des années 90. Et alors, pourquoi faire ? Ce qu'on a déjà beaucoup vu, ce sont des systèmes qui permettent d'activer une prothèse, par exemple, une prothèse de bras, une prothèse de jambe, uniquement par la pensée. C'est-à-dire par l'action de son cerveau, par l'ordre qu'envoie son cerveau à sa main ou à sa jambe. On a même vu aussi en 2018, même à Clinatech, une neuroprothèse qui permettait d'actionner carrément un exosquelette entier, c'est-à-dire une armure articulée qui a permis de faire remarcher un homme paraplégique. Mmh. C'est pour dire la puissance de ce concept.
Alors là, on va encore plus loin en quelque sorte, puisque l'IA, en posant des électrodes sur le cerveau des patients directement, est capable de décoder, on l'a dit tout à l'heure, 97% à peu près des phrases prononcées. C'est bien ça ?
Oui, absolument. Disons qu'on dit lire dans les pensées. On va être plus juste.
Un peu moins schématique, voilà.
C'est décoder la parole dans le cerveau, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Le but, c'est quoi ? C'est en effet de pouvoir remplacer ce qu'on appelle l'appareil phonatoire, c'est-à-dire tous les muscles et les nerfs qui nous permettent d'articuler la parole, de les remplacer par une machine. Donc, on pense à une phrase, elle est traduite par l'algorithme qui va l'écrire sur un ordinateur. Donc, on peut tous imaginer comme ça peut être utile. Notamment, alors je pensais aux malades atteints de sclérose latérale amyotrophique, ou alors, vous savez, les fameux Locked-in syndrome, qui est un état neurologique qui paralyse entièrement le corps, mais où la conscience est parfaitement normale. Donc, ça pourrait permettre à ces gens-là d'écrire en pensant. Que se passe-t-il quand on parle ? Déjà, on réfléchit à ce qu'on veut dire. Ensuite, le cerveau envoie l'ordre à tout le système articulatoire de la bouche, la mâchoire, etc. Et puis, on formule le mot. Et bien là, l'idée, c'est d'aller directement capter l'ordre dans le cerveau grâce à des électrodes et de les traduire en paroles sans avoir besoin de passer par le système phonatoire. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec ces patientes aux États-Unis.
C'est vrai qu'en termes d'application, ça aurait très bien pu être utilisé par exemple par l'un des grands esprits du XXe siècle, qui je crois nous a quittés en 2018, Stephen Hawking, grand théoricien de l'univers, oui. Mais dont on sait que dès les années 80, il pouvait plus s'exprimer de lui-même et on lui connaît tous cette voix synthétique très robotique. Mais c'est vrai que lui, il l'utilisait, alors je crois qu'à un moment, il utilisait ses yeux, puis ensuite, c'était des mouvements de joues qui lui servaient à sélectionner les bouts de mots qui ensuite allaient être convertis par le synthétiseur vocal. Mais c'est vrai que là, lui, il aurait très bien pu utiliser directement cette interface pour parler beaucoup plus rapidement, j'imagine, qu'avec le système qu'il utilisait avant.
Complètement. Sauf que le système est encore rudimentaire, et ça, on va en parler.
C'est exactement.
Et donc, pour comprendre, c'est très invasif, parce que c'est une grille d'électrodes qui est posée directement sur le cerveau. Alors, les volontaires, je vous rassure, c'est pas vous et moi.
C'est des gens qui avaient déjà des électrodes,
exactement,
à qui on avait déjà posé
pour,
des électrodes.
Pour chercher des foyers d'épilepsie. Donc, de toute façon, ce sont des femmes qui déjà avaient une grille d'électrodes sur le cerveau. Donc, on leur a demandé si elles voulaient bien participer à l'étude. Donc, la grille d'électrodes est sur le cerveau. À ce moment-là, on leur demande de lire des phrases déjà programmées. Mmh. Elles n'ont pas inventé ces phrases.
Que l'IA, ouais, c'est ça, que l'IA connaît ces phrases.
Ouais. Voilà. Et ensuite, l'IA vient capter l'activité électrique du cerveau et le fait coïncider avec les phrases. Donc, ça, c'est pendant la phase d'entraînement. On lui apprend à reconnaître l'activité, à faire coïncider l'activité cérébrale et les bonnes phrases. Donc, on en est à 250 mots pour 50 phrases à peu près.
Donc, par exemple, on leur faisait répéter à ces patientes, voilà. Mettez 5 étoiles à la 6e science, mettez 5
c'est
étoiles
ça.
À la 6e science.
C'est ça. Donc, au bout d'un moment, l'ordinateur apprend. Il comprend que telle activité correspond à telle phrase. Et ensuite, la phase de test où les patientes ont prononcé des phrases dans le désordre et on voyait si l'algorithme arrivait à reconnaître les bonnes phrases. Et donc là, on a une justesse de 97%, ce qui est du jamais vu dans ce genre d'interface cerveau-machine.
Et c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que ces patientes, elles sont assez atypiques. Alors, on disait qu'elles étaient déjà équipées,
oui.
Donc de grilles et de capteurs sur leur cerveau. Mais c'est aussi des patientes qui peuvent parler.
Exactement. Donc là, elles prononcent les phrases. Mmh. On est bien d'accord. C'est une façon de valider que le système marche. La prochaine étape, il va falloir qu'elles les pensent, les phrases. Et on n'en est pas encore à là. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on discute avec Joseph Macking, qui est l'auteur de cette étude, c'est qu'il dit... Ça a été montré par ailleurs que lorsqu'on pense une phrase et lorsqu'on la dit, ça active grosso modo les mêmes zones du cerveau. La question centrale, finalement, elle est là. C'est où est-ce qu'on va placer les électrodes dans le cerveau pour pouvoir capter la parole ?
Mmh.
Alors là, les équipes de recherche ne sont pas toutes d'accord. Ça, c'est étonnant à voir. Joseph Macking lui a dit, moi, je vais le poser sur le cortex moteur. Et non pas sur les aires de la parole qui sont assez distribuées dans le cerveau, mais sur le cortex moteur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on envoie l'ordre de prononcer un mot, on active notre cortex moteur, puisque le cortex moteur va aller activer les muscles de la langue, de la mâchoire, du palais, etc. Finalement, c'est comme si on court-circuitait l'ordre de la parole avant que ça n'arrive aux muscles.
On l'intercepte.
C'est comme si on interceptait l'ordre du cerveau à la mâchoire, finalement, et qu'on le traduisait par l'algorithme en mots.
Une ombre et une menace grandissent dans mon esprit.
Bon, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, et moi ça a été peut-être même la surprise en lisant le début de ton dossier, c'est que cette étude est financée par Facebook. Alors c'est assez inattendu de les voir là-dessus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que l'un des GAFA finance comme ça une étude qui quand même s'intéresse à une conversion de nos pensées en données ou en mots ?
Mais les GAFAM s'intéressent tous aux interfaces cerveau-machine. Alors Facebook, bien sûr, mais je pense aussi à Elon Musk qui a quand même présenté son implant cérébral de révolutionnaire, enfin dit-il, Neuralink, parce que pour l'instant, il n'a été testé que chez la souris, avec comme objectif de l'implanter chez l'homme. Et ce serait un implant qui permettrait de faire peut-être ce même genre de choses, c'est-à-dire de traduire la parole, etc., mais aussi plein d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec les chercheurs, ils savent très bien que pour l'instant, le but avoué de ces recherches, c'est d'aider les personnes handicapées, avec quand même l'idée derrière qu'un jour, on pourrait peut-être équiper...
Le grand public.
oui, les gens qui vont bien pour augmenter leur capacité.
Oui, c'est ça. C'est, donc, c'est aussi là, bien piloter sa voiture par la pensée.
Voilà, ou, on pourrait utiliser notre cerveau. Ça nous permettrait d'avoir les mains libres. Comme tu disais, au lieu d'écrire un texto, ben, on penserait...
directement.
Voilà. Donc évidemment, ça pose beaucoup, beaucoup de questions éthiques.
Maîtrise mieux tes pensées, Anakin, elles te trahissent. Tu as pris un engagement à l'égard des Jedi, un engagement qu'il est dur de rompre.
Alors c'est vrai que ça, c'est l'un des points les plus épineux autour de cette technologie. Tu l'as dit, hein, qui est encore très très jeune. Mmh. Et c'est vrai que tu as posé la question à un philosophe de savoir qui nous garantit que l'IA va vraiment traduire ce que le cerveau pense, entre guillemets. C'est-à-dire, qui nous garantit que l'IA est fidèle, en quelque sorte.
Il y a en effet des points cruciaux dans cette nouvelle technique, si un jour on arrive à la maîtriser parfaitement. D'abord, c'est le contrôle. On n'est peut-être pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Mmh. On est bien d'accord. Peut-être qu'il y a des choses qu'on veut garder secrètes. Il faut vous imaginer une personne équipée de ce système et que tout ce qu'elle pense soit écrit sur l'ordinateur d'à côté. Ce serait absolument un viol de l'intimité.
Un jardin plus très secret.
De l'intimité,
quoi.
Oui. Donc, ce que me disait Éric Fourneret, qui conçoit ce genre de technique, hein, il est quand même dans la partie, et donc il attire notre attention sur le fait que ce genre d'interface cerveau-machine doit absolument avoir un bouton stop. On ne sait pas encore comment, mais que l'utilisateur de ce système puisse avoir le contrôle, presque on-off, là oui, là la machine peut décoder, là elle ne décode pas.
Et puisse taire en quelque sorte
la
machine.
Ça c'est la première chose, c'est garder le contrôle et ensuite s'assurer évidemment de la fiabilité, parce que lorsqu'on a affaire à des personnes qui ne peuvent pas parler, on n'a pas ce contrôle de savoir si l'algorithme se trompe ou pas. Quand on pose des questions absolument cruciales, et notamment au lit du malade, il me citait ce cas extrême où on imagine un patient dans un état de conscience altéré et on va lui demander s'il veut qu'on arrête les soins. On va dire que l'algorithme n'a pas intérêt à se tromper.
Exactement. Ouais.
Hein? Les conséquences seraient absolument dramatiques. Donc, comment s'assurer de la fiabilité d'un tel système quand les gens ne peuvent pas s'exprimer, ça reste un vrai, vrai, vrai débat éthique. Et c'est pour ça que Éric Fourneret, qui est philosophe, est intégré à l'équipe de recherche, ce que je trouve très original et nécessaire.
D'ailleurs, il y a un terme qui revient dans son interview, c'est celle de « ethics by design », c'est-à-dire que dès le début, on intègre l'éthique.
Parce qu'il dit bien que si l'éthique arrive, disons, comme une question subsidiaire à la fin, une fois que tout le système est conçu, c'est trop tard. Mmh. Il faut vraiment poser les questions qui dérangent dès le départ. Il me disait quand même qu'aux États-Unis, les philosophes ne sont pas forcément dans les équipes de recherche.
Ils ne sont pas forcément intégrés,
oui. Je ne pensais pas ce que j'ai dit, mes mots ont dépassé ma pensée. Excusez-moi.
Alors, imaginons que dans 10, 15 ou 20 ans, cette technologie, peut-être même plus tôt, soit intégrée par tout un chacun. Enfin, on peut tout à fait imaginer que le Neuralink ou tout autre objet qu'on intégrerait comme ça à notre cerveau puisse lire des pensées extérieures, c'est-à-dire supplémentaires. C'est-à-dire que si on l'utilise, par exemple, pour contrôler sa voiture, mais qui dit que l'appareil ne va pas lire nos autres pensées, les convertir, les transmettre au fabricant ou à un autre service, qui derrière nous garantit que ces données seront protégées, en quelque sorte. Et c'est vrai que...
Ça pose des questions. Sans
parler du piratage, bien sûr.
C'est absolument vertigineux. Alors, je dirais que l'élément rassurant, c'est qu'il y a un grand programme de recherche européen qui s'appelle BrainCom, qui travaille exactement sur ces interfaces cerveau-machine et sur le décodage de la parole. Et dans leur équipe de recherche, on a des spécialistes d'éthique. Donc, ça veut quand même dire qu'on se borde.
On se prémunit, vraiment.
Dès le départ. Donc, ça, c'est rassurant.
Mais parce qu'on sait.
Parce qu'on pressent, ouais. Ça peut poser de gros, gros, gros problèmes.
On va revenir un petit peu plus sur la technologie. Là, c'est vrai qu'on a exploré un petit peu les parties un peu plus dark de ces prothèses et de ces IA. C'est de se dire, bon, on l'a dit, la technologie est balbutiante, mais elle est aussi invasive. Il faut poser les électrodes sur le cerveau. Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont envisagées pour qu'on ait quelque chose de moins invasif?
Alors oui, pourquoi l'équipe californienne a décidé de poser la grille sur le cortex? Ils obtiennent comme ça un signal très pur, direct. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on fait un électroencéphalogramme, c'est-à-dire qu'on pose des électrodes sur le crâne, on a la barrière osseuse. L'activité cérébrale qu'on arrive à détecter est beaucoup moins fine. Disons que le signal est beaucoup plus grossier. Donc c'est pour ça déjà qu'ils sont allés à l'intérieur du cerveau. Mais en revanche, il y a en effet beaucoup de projets de recherche et même déjà des outils qui existent, qui permettent de décoder, alors pas la parole, mais de décoder l'intention dans le cerveau grâce à des électrodes posées sur le crâne. Mmh. Alors, une des technologies qui existent, c'est de repérer dans le cerveau ce qu'on appelle l'onde P300. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah oui, j'avoue.
P300. Tu veux épeler ton nom, par exemple. Donc, ça va commencer par un R et tu ne peux pas parler. Donc, je vais faire défiler l'alphabet devant tes yeux. Et lorsque tu vois le R, tu vas fixer ton attention. OK ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bah, toi, tu vas voir les lettres défiler. Lorsque le R va arriver, ton cerveau va faire un pic, le fameux P300, une activité, puisque c'est l'activité cérébrale des choses rares et attendues. Mmh. Tu l'attends, elle arrive, tu fais ton pic, tu la remarques. Eh bien, les chercheurs mettent un casque d'électroencéphalogramme et repèrent ce P300 lorsque tu vois la lettre qui t'intéresse. Donc, on comprend bien que toi, tu vas épeler R, O, M, I, N. Et à chaque fois, on va repérer. Bon, mais tout ça est très long.
Ouais.
C'est-à-dire que tu vas mettre 12 secondes par lettre.
Ah ouais.
Donc, j'ai calculé, pour dire Romain, je crois que c'est plus d'une minute.
Ouais.
Donc, bon... Après, c'est une façon de t'exprimer qui marche. Hein. Donc ça, ça a été éprouvé.
Qui ressemble un peu à celle qu'utilisait Stephen Hawking. C'est-à-dire qu'il
Absolument.
Déclenchait un mouvement de le muscle de sa joue quand il voyait le curseur se déplacer sur la lettre que lui visait, en quelque sorte.
Voilà, donc c'est assez long. C'est pour ça qu'on cherche d'autres systèmes qui permettraient quand même de gagner du temps. Et donc là, j'avais repéré une start-up néerlandaise qui s'appelle Mind Affect, qui, elle, a inventé un autre système où cette fois, c'est plus l'alphabet qui défile. On imagine un écran avec toutes les lettres de l'alphabet et les lettres, elles clignotent avec des codes particuliers, comme en morse.
Mmh.
Et lorsqu'on fixe son attention sur les lettres, l'électrode qui est posée sur le cuir chevelu reconnaît le code. Alors, ça nécessite un tout petit entraînement, mais c'est vraiment pas très long. J'avais dit tout à l'heure, c'était 12 secondes par lettre pour un système à base d'ondes P300. Et là, on arrive à 2 secondes. Donc, on peut dire Romain un peu plus vite.
Ouais, effectivement.
Tu devrais essayer de mettre des mots avec tes gestes.
Ah bon ? Mais ça va pas être un peu trop confus ?
Essaye.
Là, en gros, ce que tu nous dis, c'est que la phase d'apprentissage, c'est pour que nous, on se dise, OK, le R, c'est 3 signaux ou c'est 3 clignotements comme ça.
Ah c'est... non, c'est complètement automatique.
C'est automatique.
Il suffit de regarder les lettres et comme les électrodes sont posées à l'arrière de la tête, au niveau du cerveau qui détecte les systèmes lumineux, c'est le détecteur
okay.
qui repère quel code on est en train de regarder.
OK, ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on perçoit 3 flashs, le cerveau perçoit.
Mais c'est complètement inconscient.
Ouais, bien sûr.
C'est complètement inconscient. Et ça a l'air de bien marcher.
En parlant d'apprentissage tout à l'heure, on disait que le système invasif, on revient un petit peu sur le début de l'émission, désolé des allers-retours, mais c'est un système qui est encore, qui débute, mais qui ne connaît, qui ne comprend, qui ne détecte que 50 phrases pré-apprises. Quelle est l'étape d'après, en quelque sorte, là-dessus ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'intelligence artificielle apprenne, elle, toute seule ? Enfin, je sais pas vraiment, mais quelle est la direction que va prendre le projet de ce côté-là ?
Parce que c'est vrai que pour l'instant, le système est très contraint. C'est que 250 mots pour faire 50 phrases. Et dès que la phrase n'est pas tout à fait celle que l'ordinateur a apprise, il ne la reconnaît pas. Donc là, c'est un vrai, vrai frein. L'idée, en tout cas, c'est ce que me disait le chercheur, c'est d'augmenter le nombre de mots, d'arriver à des milliers de mots. Mais finalement, le frein, là, il est au niveau de la complexité des calculs.
Mmh.
Donc, ils sont en train de travailler vraiment intensément à améliorer leur intelligence artificielle pour espérer non seulement agrandir leur vocabulaire, finalement, et puis on espère à un moment donné pouvoir aussi créer des phrases de toutes pièces, en fait, nos phrases, qu'elles soient spontanées et que l'IA arrive à les reconnaître. Mais là, je vais dire, c'est vraiment un système idéal.
Mais du coup, pour toi, est-ce que c'est ce projet qui est invasif, mais qui, on l'a dit, reconnaissait en temps réel les pensées slash paroles des patients, qui est le plus, on va dire, prometteur pour les patients, les personnes qui sont victimes du syndrome d'enfermement, ce genre de choses ?
C'est très prometteur d'un point de vue technique, mais en même temps, les freins éthiques sont vraiment à considérer.
Mmh.
Et il ne faudrait pas commencer à équiper des gens de systèmes qui violent leur intimité. Voilà, c'est ce que je pense. Il faut d'abord régler ce problème.
Ouais, il faut prendre le temps.
Oui, il faut prendre le temps de régler ce problème.
Pas besoin de lire dans mon esprit pour comprendre qu'a sonné l'heure de nous dire au revoir. Alors, si vous êtes pressé, vous pouvez appuyer sur le bouton avance rapide de votre lecteur ou bien faire comme moi, remercier par la pensée et par les mots Elena Sender, donc la spécialiste en neurosciences du magazine Science et Avenir. Merci beaucoup,
Merci.
Elena. Alors, je vous garde avec moi quelques secondes de plus. Bon ou mauvais, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode sur la page iTunes de 6ème Science. On l'a dit tout à l'heure, j'ai essayé de vous faire passer un petit message subliminal. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à audio@20minutes.fr. Nos neurones seront plus que ravis de vous répondre. A très vite, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.